Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à tous. Donner la parole et valoriser la parole de chacun, partager des réflexions, des connaissances, des expérimentations artistiques, la création, l'inventivité. C'est avec Résonance sur Radio B. Walter Benjamin, philosophe, critique littéraire, critique d'art et traducteur allemand, né en 1892 à Berlin et mort en 1940 à Portbou en Espagne, nous permettra par le biais de ses écrits, ses réflexions et son travail sur le plan radiophonique d'aborder comment celui-ci imaginait la place, le rôle de ce média qu'est la radio. Il écrivait « Écouter une voix sans corps et la recevoir chez soi comme un hôte ». Fin de citation. Des propos donc de Walter Benjamin pour nous inviter à réfléchir sur comment faire aujourd'hui de la radio. Puis nous rejoindrons Cécilia Devarine au téléphone, avec laquelle nous évoquerons également l'aventure des ateliers radiophoniques qu'elle a pu mettre en place à l'hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon dans le cadre du développement culturel qu'elle initie au sein de cet établissement de santé. Voilà donc le programme du jour que vous pourrez, bien entendu et comme d'habitude, écouter, réécouter à l'antenne et en podcast sans modération. Résonance sur Radio B et nous venons d'entendre pour commencer cette émission une œuvre intitulée « Danse » d'un compositeur azéri, Fikret Amirov. C'est extrait du disque « Vent d'Est » réalisé par Ivan Beatrice Belloc, donc un disque qui réunit un ensemble d'œuvres pour flûte et harpe. Et pour cette œuvre de Fikret Amirov intitulée « Danse », nous avions donc à la flûte Ivan Beatrice Belloc et à la harpe Anne Mispelter. Alors, peut-être, quand j'énonce le nom de Fikret Amirov, on peut s'attarder quelques instants sur ce compositeur qu'on n'entend pas tous les jours non plus, sur les ondes. Celui-ci est né le 22 novembre 1922 à Ganja et il est mort le 20 février 1984 à Bakou. Il a été un important compositeur azerbaïdjanais. La musique qu'il a composée a peut-être plus été entendue en dehors de son pays que celle de n'importe quel autre compositeur azéri. Son père, Mejdi Jamil Amirov, était un célèbre kalandé, chanteur de Mougam. Originaire de Chouchi, il composait et jouait du tar. Pendant son enfance et son adolescence, Fikret commence à composer des pièces pour piano. Après être diplômé de la faculté de musique de Ganja, Fikret entre au conservatoire d'État à Bakou et étudie sous la direction de Boris Zeinman et Uzieri Majeybeyov. Quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, Amirov, qui avait seulement 19 ans, est mobilisé et ses études au conservatoire sont interrompues. Amirov a été blessé, puis hospitalisé, et il était démobilisé et est retourné à Bakou pour continuer ses études au conservatoire. Par la suite, Amirov a été honoré comme artiste du peuple de l'URSS en 1965. Il reçoit le prix Staline et ainsi le prix national du RSS en 1980. La musique d'Amirov est fortement influencée par les mélodies traditionnelles azéries. Il a créé un nouveau genre appelé le Mougam Symphonie. Et ces mougams symphoniques, étant basés sur des œuvres folkloriques classiques, étaient joués par des orchestres symphoniques renommés dans le monde entier, comme l'Orchestre symphonique de Boston, dirigé par Léopold Stopkowski. Résonance, le rendez-vous radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales, culture, handicap, musique contemporaine. Lors de la dernière décennie, nous avons assisté à l'extraordinaire développement des moyens de communication. L'homme n'a jamais autant communiqué qu'à notre époque et il n'a jamais eu autant de moyens pour le faire. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information. Nous recevons les mêmes informations, nous écoutons les mêmes spécialistes parler et analyser l'information et nous regardons les mêmes programmes produits par quelques-uns. Nous savons ce qui se passe de l'autre côté du monde, mais parfois nous ignorons ce qui se passe en bas de chez nous. Les moyens de communication et de production de l'information n'ont jamais autant été monopolisés par une poignée de personnes, d'où la nécessité, l'existence de médias de proximité que sont les radios associatives, les radios communautaires, telles que Radio B. La démarche, l'action de ces radios associatives contribue à la démocratisation de la communication et à la participation active de la population. Très vite, des personnalités telles que le philosophe écrivain Walter Benjamin ont saisi l'importance d'un tel média dès sa création et la mise en place de la radio dans la société. Écouter une voix sans corps et la recevoir chez soi comme un hôte, telle sera en effet l'expérience que Walter Benjamin proposera à partir de la fin des années 1920 à ses chairs invisibles situées de l'autre côté du poste de radio. Le parcours radiophonique de Benjamin débute en août 1929 pour s'achever en 1933, quelques jours seulement avant la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier du Reich. 5 années durant, Benjamin rédige ainsi réalise près de 90 émissions. Benjamin conçoit la radio comme médium d'invention et d'élargissement des connaissances, de ce qu'il y a à connaître comme de ceux qui peuvent les connaître. Il se servira en effet de la radio comme d'un gigantesque amphithéâtre à ciel ouvert et à l'écoute des nouveaux vents de l'histoire. Walter Benjamin cherche à faire de la radio une continuation populaire du récit épique, un médium qui accueille la vie quotidienne pour y découvrir une morale inattendue, donc politiquement subversive. La radio doit pouvoir s'adresser à tous les hommes en évoquant leur monde environnant afin qu'ils puissent le connaître, c'est-à-dire le juger. Pour Benjamin, la radio permet de prendre les choses d'une toute autre manière. Il s'agit maintenant de reprendre et de transformer les données du savoir à transmettre du point de vue de la vulgarisation. Celle-ci n'est plus seconde ou secondaire, mais elle devient le moteur de la pensée, au point de donner aux auditeurs la certitude que leur propre intérêt possède une valeur réelle pour le sujet traité. Une inversion qui change tout. Révolutionnaire, conclut Benjamin, qui fait du public un centre actif capable d'agir sur la science et non pas l'inverse. La communauté des auditeurs a ceci de particulier, remarque Benjamin. Elle se constitue non pas de plusieurs individus rassemblés dans un même espace, comme c'est le cas notamment pour un concert, mais d'un grand nombre d'individus isolés. Pour autant, l'homme de radio et ses auditeurs ne sont pas condamnés à rester étrangers les uns aux autres. Benjamin fait le pari d'aller rencontrer ce public invisible. Et cela n'est possible, selon lui, qu'au moyen d'une politisation de la radio. Cette dernière se doit d'éveiller chez l'auditeur une conscience à la fois pratique, critique et politique, sans toutefois se détacher du plaisir procuré par le divertissement. Pour cela, celui qui écoute doit être prêt à chaque instant à devenir quelqu'un qui donne à entendre.
Nous sommes sur le terrain Vague de l'Amont RT. Dans la zone industrielle de la ville de W, Anna, Martin, Jonathan et Alice sont des amis inséparables. Comme chaque fin d'après-midi, ils aiment se retrouver pour jouer, discuter et passer du bon temps.
Ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Ouais, c'est clair.
J'ai garé mon scooter là-bas, vous pensez que ça va déranger ou pas?
Non, je pense pas, j'ai fait pareil avec le mien.
Ok, j'ai un ballon, c'est qui veut jouer?
Ah ouais, je veux bien.
Ok, bon bah c'est parti, c'est qui compte?
Moi je suis pas très bien crêté alors.
Oh là, je viens de sortir des cours alors hein.
Ah non, moi non plus je suis là.
Bon. Qui c'est qui a mis à manger? J'ai trop faim là.
Oh mince, j'ai oublié.
T'es sérieux? Mais c'était à toi de l'emmener.
Oh je sais, regardez cet arbre. Il y a des fruits dessus, on a quoi les prendre?
Vous avez vu ou pas le panneau tête de mort avec nos dédangers là sur le grillage? Moi j'y vais pas, ça me fait flipper hein.
Ouais.
Bon j'y vais.
Eh, hey, fais gaffe, hein, y a la centrale nucléaire là.
Ouais. Fais gaffe, ça peut être dangereux, hein.
Ouais, ça peut être dangereux.
Tenez, regardez ce que j'ai trouvé.
Ah, mais merci. Cool. Franchement, cool. C'est trop merci. Cool, hein.
Y a personne qui t'a vu au moins?
Non.
Ah, cool.
Bon, c'est bon alors.
Putain, ça a l'air trop bonne.
Grave. Vas-y, donne-en une.
Tiens.
Merci. Merci. Elles sont trop bonnes.
Ouais, ouais. Oh là là, c'est un régal.
La fin de journée arrive. Chacun rentre chez soi.
Ah non! Oh, qu'est-ce que je fais? Arrêtez! Qu'est-ce que je fais? Arrêtez!
C'est trop fort, mais... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas! Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est quoi ces bruits? Des araignées, des cafards, des souris, mais qu'est-ce qui gratte? C'est horrible! Papa, maman! Papa, mon ami!
Quoi?
Mais papa, si fort, je suis jaune!
Quoi, non?
Mais j'entends tout, c'est horrible, j'entends tout!
Ah, c'est bizarre. Comment ça, tu entends trop fort?
Mais t'en fous, papa!
T'as envie que je chuchote?
Oui, s'il te plaît!
Bon, d'accord, hein.
Papa va chercher des boulquettes, peut-être que ça ira mieux.
Oui, oh, j'ai quand même appelé le docteur. Hein. Tiens, je t'apporte cette boulquette. Ah, merci, ça va beaucoup mieux. Tu as rendez-vous dans une heure chez le docteur Gélo. Ah, merci, super.
Dans la salle d'attente du docteur Gélo.
C'est à vous, Anna.
Bonjour, docteur Gédo.
Qu'est-ce qui vous ramène ici?
Bah, depuis ce matin, en fait, j'entends tout trop fort, des bruits que je devrais jamais entendre, mes parents qui chuchotent dans la chambre, les pattes d'araignée, les pattes de cafard, tout est amplifié.
Mmh,
C'est intéressant. Laissez-moi consulter mes livres 5 minutes.
Pas de problème.
C'est génial, c'est un super pouvoir. Il faut que je puisse l'étudier en profondeur avec mon scalpel. Ouvrir pour bien comprendre. Oui, ouvrir pour bien comprendre avec mon scalpel. Il faut que je l'emmène dans mon laboratoire pour opérer.
Ce n'est pas grave, c'est un sens hyper développé. C'est un sens qui est vraiment, vraiment, vraiment développé. Les boules pièces, c'est pour ça ?
Oui, c'est pour ça. C'est grave, docteur ?
Non, ce n'est pas grave. Vous pouvez les enlever, s'il vous plaît ?
Oui, oui, pas de problème.
Ah !
Au même moment, au parc du Javelot, les trois copains se retrouvent.
Salut Jonathan.
Salut Martin.
Salut les mecs. En fait, vous avez pas un truc qui a changé aujourd'hui ?
Si, moi.
Si, ouais, moi aussi. Ouais.
Vas-y, montre.
À chaque fois que je touche un truc, je peux le faire tomber.
Waouh ! Mais ça a aussi disparu !
C'est super !
Oh my god ! Moi, j'ai un odorat qui est super développé. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a un monsieur avec un parfum bon marché qui va arriver avec un beignet à la pomme.
Salut les jeunes, ça va ? Vous voulez un bout de beignet à la pomme ?
Non, merci monsieur. Au revoir.
Au revoir.
Et toi alors ? C'est quoi ton truc ?
Ah, moi je peux voir à travers les murs.
Ah ouais ?
Comme là-bas dans cette maison, je vois quelqu'un qui fait à manger.
Waouh, mais c'est impressionnant ! Vous vous rendez compte, on a des pouvoirs presque de super-héros.
Ouais, c'est super.
C'est super cool.
Moi, je peux fabriquer un mur.
Ah bon ?
Ouais.
Fabriquer un mur ?
Ouais, en claquant les doigts.
Vas-y, fais.
Comme ça.
Waouh ! Mais c'est comment super. T'as fait ça ? C'est impressionnant.
Vous avez pas vu Anna, vous ?
Non, je l'ai pas vu, Anna.
Moi non plus.
C'est bizarre.
Et toi ?
Ouais, non, moi non plus.
Faudrait peut-être lui téléphoner.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Anna. Je suis désolée, je peux pas vous répondre. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Salut.
Oh non, elle répond pas. Bon, je vais appeler son père. Allô ? Vous êtes bien le père d'Anna ?
Oui, allô ?
Elle n'est pas venue aujourd'hui, elle va bien ?
Elle avait mal aux oreilles, tout était trop fort. Elle est allée voir Docteur Gédo, mais elle devait être revenue depuis longtemps.
Elle n'est pas revenue ? Mince ! Oh my god, tu sens son parfum ! Monsieur, je vous laisse !
Au revoir.
Oh là là, je le sens de plus en plus fort !
Je la vois dans la camionnette, elle est ligotée, inconsciente.
Allez vite, on suit la camionnette.
Oui !
Dans le laboratoire du docteur Gédo.
C'est chez le docteur Gédo.
Regarde avec tes pouvoirs ce qu'il y a à l'intérieur.
Il y a des ciseaux, des scalpels, le docteur en face de Anna, et il y a plein de bruits bizarres.
Il faut faire quelque chose, il faut la sauver.
Regarde s'il y a des trucs à l'intérieur.
Le docteur est en train de s'en aller.
Allez, je vais détruire le mur.
On prend Anna et on s'en va.
Allons-y.
Anna, t'es vivante.
Anna, ça va?
Elle est dans les pommes.
Ça va, Anna?
Parlez moins fort, mes boules caisses, sur la table.
Ah, je crois que c'est ça. Tiens.
Ah, merci, ça va mieux. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de
vous
voir.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?
Docteur Gédo m'a enlevé.
Il est là. Mon mur, vous allez le regretter.
Oh, attention.
Attention, il est derrière vous.
Oh. Relève-toi, Martin.
Mais lui, assomme-le.
Mais lui, une droite.
Allez, fais attention. Non, relève-toi. Venez vite, fais attention, c'est du gaz mortel.
Mur de verre.
Waouh, Jonathan, super le mur de verre.
Merci les amis. Avec nos pouvoirs, on va pouvoir sauver plein de gens.
C'est parti.
Preneuse de son, bruiteuse. Et dans le rôle de Anna, la jeune fille enlevée,
Eva Chargereau.
Bruiteuse, preneuse de son, et dans le rôle de la narratrice,
Borel Leslie.
Bruiteuse, preneuse de son, et dans le rôle de Alice,
Clara Minichino.
Bruiteur, preneur de son et cascadeur dans les combats,
Ronan Chipon.
Doublure de Anna et cascadeur,
Ryan Bachaché.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur, et dans le rôle de Jonathan,
Steve Brière.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur et dans le rôle du passant au beignet aux pommes,
Erwan Flamand.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur et dans le rôle du papa d'Anna,
Quentin Buffon.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur et dans le rôle de Martin,
Geoffrey Noyel.
Preneur de son, bruiteur, cascadeur et dans le rôle du docteur Gédo,
Andy Chan Avan.
Bruiteuse,
Joël Lacly,
Véronique Laillé. Bruiteuse et cascadeuse,
Corinne Laurent.
Preneur de son, bruiteur,
Oumar Konaté,
Lucas Gournier,
Bastien Gerbu.
Bruiteuse et dans le rôle du conducteur de la voiture,
Hélène Devime.
Scénario Julien Marty, mise en scène Ingrid Lebrasseur, réalisation montage Raphaël Terribilet.
Résonance sur Radio Biais et nous venons de vivre donc ensemble une fiction radiophonique réalisée en 2016 intitulée Les Masters Superpouvoirs, réalisée donc par les enfants du CESAD, Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, de la PAGE, une association accompagnant des enfants en situation de handicap, à Valence, dans le cadre d'ateliers de création radiophonique conduits par Raphaël Terribilet de Radio Méga, une radio associative établie également à Valence, donc dans la Drôme. Alors poursuivons effectivement notre émission et ce questionnement finalement sur la place aussi des radios et de la radio dans toutes ses dimensions. Effectivement, depuis donc les premières années, en tout cas après de l'existence des radios libres, il est apparu que l'outil radiophonique, au-delà du fait essentiel qu'il permet l'accès à l'expression publique pour tous les citoyens, c'est aussi un outil d'apprentissage et de consolidation de compétences fondamentales pour ceux qui s'y frottent ou se l'approprient. En fait, la radio est plus que jamais un outil puissant pour la création des identités, la construction des opinions populaires et l'élaboration des goûts musicaux et culturels. La création que nous venons d'écouter ensemble, chers auditeurs, témoigne aussi de cet espace de création, d'outils merveilleux, de mise en forme de notre imaginaire que peut procurer aussi la radio. Alors aujourd'hui, bien entendu, depuis ces années de début des radios libres, ces démarches de création radiophonique se développent de plus en plus, se multiplient et de multiples initiatives apparaissent dans des cadres les plus divers. Alors si vous le voulez bien, nous allons plonger dans l'une de ces initiatives, ce n'est pas la seule, vous allez très vite comprendre dans l'échange que nous allons avoir maintenant, car je vais accueillir au téléphone Cécilia Devarine, qui doit être en ligne actuellement à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Bonjour Cécilia.
Bonjour Alain.
Et bienvenue dans cette émission.
Eh ben merci de m'y accueillir.
Voilà, alors, juste rappeler, Cécilia, que vous êtes chargée du développement culturel à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, et puis que, dans ce cadre-là, on pourra aussi évoquer ensemble qu'il se passe bien aussi d'autres choses, beaucoup d'autres choses, mais il y a eu, depuis 2015, un rapport aussi à la radio, à la création sonore, parce que aussi tout ce domaine-là vous intéressait, et que pour résumer un petit peu rapidement le contexte, qu'à partir de 2004 et 2015, il y a eu un travail avec des professionnels et des patients aussi de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où ils ont été invités à s'aventurer eux aussi sur les chemins de la création dans le cadre d'un atelier de création sonore. Et là, une artiste les avait accompagnés dans la prise de son, dans le montage, et c'était en l'occurrence Véronique Macari, une habituée aussi de ce type d'expérience dans le domaine sonore. Et puis ensuite, cette première dynamique s'est poursuivie sans forcément l'accompagnement de Véronique Macari, mais cet atelier a continué et a continué son expérimentation dans le domaine sonore et a continué d'effectuer de travail de création et de s'aventurer un petit peu dans cette pratique. Alors, peut-être au regard de la petite introduction que je faisais à votre accueil, Cécilia Devarine, quel regard portez-vous de votre point de vue ou l'analyse que vous portez voilà, sur cette période un petit peu d'expérimentation, de création, en tout cas à travers un peu ce média, je dirais, puisque radiophonique, puisque Radio Pluriel aussi, lui, était bien présent, était un des partenaires, et que ce travail a pu trouver justement une diffusion dans l'espace public grâce à ce partenariat.
Oui, alors je vous entendais effectivement faire l'histoire des radios libres et cela me faisait penser que s'il y a un tel engouement depuis quelques années pour oui. ce média et l'invention que cela permet, je pense que c'est aussi énormément dû évidemment aux prouesses technologiques de notre époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très très simple de faire du son, même quand on n'a pas beaucoup de matériel, il suffit de pas beaucoup de choses pour pouvoir enregistrer du son de qualité et pouvoir faire du montage sur ordinateur, de pouvoir voilà. Alors ça donne pas du travail de pro du tout.
C'est ça.
Mais en même temps, ça permet un peu à tout un chacun de sortir avec un micro dans la rue. Il suffit d'avoir son portable, enfin son téléphone portable, et on peut déjà faire des petites vidéos. Donc c'est assez extraordinaire parce que du coup, ça simplifie quand même beaucoup de choses.
Complètement.
Après, alors ensuite, nous, on avait un grand modèle, on pourrait dire, une sorte de parrain, un ancêtre qui était la Colifata, cette radio qui a été expérimentée dans un hôpital psychiatrique d'Argentine, à Buenos Aires, et qui a été une des premières grandes expériences d'une radio au milieu d'un hôpital
c'est
qui,
ça.
Toutes les semaines, diffusait sur les ondes. Voilà, on avait un peu ça en tête, et puis du coup, on a eu envie de s'aventurer aussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est à la fois un média passionnant, c'est un média qui plaît beaucoup, c'est-à-dire que les gens écoutent la radio. Quoi. Alors, pas toujours les mêmes radios, on a eu un grand débat au début avec le groupe radio de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où on s'est interrogé sur les pratiques d'auditeurs des uns et des autres, mais il y en a qui écoutent des radios beaucoup plus commerciales, d'autres beaucoup plus intellectuelles, d'autres beaucoup plus musicales, etc. Chacun un peu à ses goûts, et malgré tout, c'est un média simple, hein.
C'est-à-dire
que c'est quelque chose que les gens pratiquent, c'est une pratique culturelle quotidienne des gens. Et du coup, et puis, il n'y a pas l'image. Il y a la voix, mais il n'y a pas l'image. Et ça, c'est quand même une énorme libération, quoi, dans ce que Marie-Josée Monza appelle l'univers des visibilités de notre époque. Être un peu invisible, mais avoir sa voix quand même qui dit des choses, c'est vraiment extraordinaire. Donc, du coup, ben, à l'hôpital, où quelquefois on a du mal à emporter un peu l'adhésion de patients qui sont d'abord très malades, qui sont dans une période difficile, il se trouve que ce média a toujours enthousiasmé les gens. Et du coup, on n'a pas eu de difficultés à trouver des participants, à ce qu'ils s'engagent, à ce qu'ils restent même assez fidèles. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis voilà, puis après on a essayé de travailler plusieurs hypothèses de méthode, on pourrait dire. Donc effectivement, on a eu Véronique Macari, une artiste de radio qui nous a accompagnés dans les débuts, qui a elle-même fait quatre pièces sonores partir du travail mené en atelier avec elle. Et puis ensuite, on a essayé de s'en émanciper, on pourrait dire, parce que le groupe avait à la fois énormément aimé la façon dont elle avait mené les ateliers, mais avait trouvé qu'on ne se reconnaissait pas complètement dans le montage qu'elle avait apporté, parce qu'effectivement c'était très très signé de son approche d'auteur.
C'est ça, sûr.
Et du coup, le groupe avait eu envie de continuer l'aventure radiophonique, mais en étant peut-être plus indépendant ou plus d'essayer de travailler à partir de ce qu'elle nous avait appris. Donc là, on était vraiment dans un processus d'appropriation assez extraordinaire. On s'est fait quand même accompagner, parce que c'était pas évident quand même de se retrouver tout seul. Donc on a toujours eu un professionnel pas loin, on va dire. On a eu ces dernières années, on a eu Raphaël Cordray, qui est un compositeur de création sonore aussi, qui nous a accompagnés pour tout ce qui était montage et mise en forme en fait du média qui allait être diffusé sur les ondes. On a eu aussi quelqu'un qui est un animateur de radio lyonnais qui s'appelle Arnaud Bonpublic, c'est son nom de scène, et qui nous a un peu entraîné aussi un peu dans une aventure avec les 10 mots de la langue française.
Oui, qui devait être aussi encore un autre aspect de traiter ces choses, parce que du coup, finalement, le groupe s'expérimentant va aussi augmenter ses manières de dire, ses manières de faire.
Exactement, tout à fait.
Et ça, et ça peut démultiplier.
À chaque fois, on a exploré des nouvelles pistes. Alors, quelquefois, c'était plus ou moins sage, quelquefois plus ou moins drôle, quelquefois plus ou moins en direct. Enfin, voilà. Mais toujours, il y avait cette idée de faire des petits médias, des petites pièces, composées d'interviews, d'un reportage, une rencontre, un débat, etc. Et à chaque fois, ces petites pièces, une fois montées, étaient emmenées à Radio Pluriel pour être diffusées lors d'une émission en direct où le groupe venait présenter son travail. Donc on a travaillé sur des thèmes choisis par le groupe à chaque fois, comme manger, la musique, il y a eu aussi la joie, qu'on abordait sous plein d'aspects, chacun apportant un petit peu sa pierre à l'édifice en disant moi je propose d'aller rencontrer telle personne ou de lire tel texte ou d'écouter telle musique, etc. Donc ça, c'est une aventure qui ça fait quand même plusieurs années maintenant, puisque effectivement vous l'avez rappelé, c'est 2015 le début de l'aventure. Maintenant, on arrive à une nouvelle phase. Hein. On est obligé de prendre un tournant parce que les hôpitaux prennent des tournants aussi en ce moment. Et que, du coup, comme on est dans une période où le soin va être de plus en plus peut-être travaillé au niveau des structures ambulatoires sur le territoire, on va essayer de devenir nous-mêmes ambulatoires. Et la radio va devenir se nomadiser en quelque sorte. Notre projet radiophonique. Et on va essayer de trouver des ancrages sur des territoires dont s'occupe l'hôpital.
Ça voudrait dire, Cécilia de Varine, que là, effectivement, de ce que l'on évoquait, ce que vous venez aussi de le regard que vous portiez sur toute cette action, se situer, pour nos auditeurs, à l'intérieur de l'hôpital, ça veut dire que du coup, certaines actions s'exporteraient hors de l'hôpital, mais appartenant au territoire de l'hôpital.
Voilà, c'est-à-dire que l'hôpital, comme tout hôpital psychiatrique, s'occupe d'un territoire géographique. Et nous, c'est tout le sud du département du Rhône.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'est d'aller s'implanter dans une structure culturelle partenaire. Au niveau d'un de ces territoires, et de dire, pendant 3 mois, on plante notre tente
à
cet endroit. Et on travaille avec les structures de soins de notre hôpital sur ce territoire, en essayant de fédérer un petit groupe qui porterait pendant 3 mois un projet d'une émission.
Ah oui, très bien. Voilà. Ce qui va être encore une toute autre aventure, mais en même temps, qui va lui donner à chaque fois une couleur, un angle, et puis investir d'une autre manière encore, bien sûr, les personnes résidant sur ce territoire.
Voilà, et l'idée, c'est c'est toujours quand même d'être en dehors du lieu de soins.
C'est ça.
C'est-à-dire de profiter de ce projet aussi pour aller à l'extérieur, aller rencontrer des nouvelles personnes, aller dans un lieu culturel qui nous abriterait, voilà, se relier au reste du monde.
Et là, finalement, la radio servira encore de lien assez merveilleux, finalement, pour aller à la rencontre d'autres, justement.
Oui, exactement. Alors, pour ça, Radio Pluriel est un super partenaire, même s'il n'est pas toujours très solide, hein, parce que c'est une association qui repose sur des bénévoles essentiellement.
Qui a ses fragilités, forcément.
Voilà, mais c'est un super partenaire pour nous, parce que d'abord, il est sur notre territoire, justement. Saint-Priest fait partie des communes que couvre l'hôpital. Mm-hmm. Et ensuite, parce qu'ils ont une équipe très, très engagée hein, dans toutes ces questions aussi de parole citoyenne, de prise de parole par chacun. Mm. Et que ça, c'est vraiment, on est toujours accueillis merveilleusement bien, donc c'est super. Quoi.
Ça, c'est essentiel. Effectivement, un partenaire comme celui-ci est complètement essentiel pour que vraiment, dans un deuxième temps, c'est un public beaucoup plus élargi qui permet justement de découvrir ce travail, ces initiatives. Et puis ça donne du sens aussi pour tous ceux et toutes celles qui se lancent aussi dans cette aventure à vos côtés.
Et oui, exactement. Exactement. La seule petite frustration, moi, je trouve, dans tous ces projets-là, c'est qu'on ne sait jamais qui nous écoute ou qui
nous
a écouté. C'est très rare qu'on ait des retours. Ça nous est arrivé, mais c'est très, très minoritaire, on pourrait dire. Et du coup, voilà, ça, c'est un peu mon regret. J'aimerais qu'on ait un peu plus de retours des auditeurs, parce que c'est vraiment, on lance une parole et on aimerait quelquefois avoir ces retours. Et je suis sûre que si dans les émissions, ils ont inventé ces systèmes justement d'appel des auditeurs à la radio.
Ou c'est pour ça.
c'est pour sentir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté.
C'est vrai qu'il y a aussi un petit peu l'impression de peut-être d'une bouteille un peu à la mer quelquefois. Et on ne sait pas si effectivement, elle sera, elle ira à la rencontre ou que quelqu'un finalement sera là aussi pour la découvrir et se trouver intéressé par son contenu. Et c'est un peu ce fait-là, effectivement, de la radio, en tout cas pour les radios aussi associatives, qui n'ont pas, comme pour les grosses radios plus importantes ou commerciales, le système médiamétrique qui, effectivement, est tout un système mais qui est aussi important sur un coût financier pour chacune des radios et qui, des fois, empêche justement un petit peu ce contrôle, mais d'avoir au moins un peu cette perception de la rencontre avec un public, de le matérialiser quand même avec quelques éléments tangibles. Qui nous manque. Mais en tout cas, c'est un beau projet finalement de voir de là où il est parti et puis du coup cet essaimage finalement et cette circulation qui va s'engendrer, cette itinérance finalement.
Et oui, voilà. Alors ça va reposer beaucoup sur la confiance ou l'engagement des équipes de soins hein, qui
c'est
sont
certain.
Sur les différents territoires, parce que c'est elles qui vont aussi entraîner un peu dans le mouvement les patients et les acteurs du territoire. Mais je pense que c'est pour ça qu'on ne le fait que maintenant. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir longtemps s'être fait connaître de tous ces territoires pouvoir se sentir en confiance, puis avoir un partenaire culturel sur chaque territoire, c'est pas rien. Donc du coup, ça a mis du temps. On n'est pas encore rentré dans la voiture pour aller vers la première étape. Mais on espère que ça va bien se faire à partir de janvier et qu'on va trouver les moyens aussi de mener à bien cette aventure.
Et là, vous sentez, je dirais justement, vous évoquez ces différents territoires, les personnels, vous les sentez aussi prêts à adhérer à une proposition de cet ordre ?
Alors oui, tout à fait. Enfin, on commence. Hein, donc on a trois équipes. Là, j'ai trois équipes qui semblent assez partantes pour tenter l'aventure. C'est forcément quelque chose d'un peu particulier parce que je parlais du projet de santé publique qui se dessine progressivement au fur et à mesure des années et donc en psychiatrie qui devient plus ambulatoire chaque fois. C'est aussi difficile pour les équipes parce qu'il y a un vrai changement de temps et de temporalité dans la question du soin, dans l'accompagnement des personnes, dans leur rythme, les rythmes de travail et du quotidien avec les patients. Et finalement, un projet comme celui-là, moi, ce que je propose, c'est que ce soit des projets de quelques mois, trois mois,
c'est
un
ça.
Projet. On va s'installer à Vénissieux, une autre fois, on ira à Givors, une autre fois, on ira à Oullins ou à Tassin-la-Demi-Lune. Et du coup, c'est des temps courts sur lesquels il y a une sorte de dynamique qui peut se mettre en place, mais il faut qu'elle soit assez rapide. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que le temps de la psychiatrie, le temps de la psyché, il n'est pas le même temps.
Il n'est pas le même,
il n'est pas dans une vitesse comme ça.
Effectivement.
Donc il va falloir trouver le bon rythme, et c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille.
Alors peut-être ce que je pourrais vous proposer, Cécilia de Varine, c'est que il y a eu quatre fragments, en tout cas que nous on avait déjà eu l'occasion de diffuser aussi sur Résonance dans le cadre d'autres émissions. chacun étant d'une duresse importante et peut-être le temps imparti de notre entretien ne nous permettrait pas de passer la totalité, mais je vous propose que l'on puisse écouter quand même un extrait d'un des fragments qui avait été réalisé donc dans le cadre de l'atelier sonore à Saint-Jean-de-Dieu, là notamment encore avec la complicité, donc on remonte un petit peu dans le temps et au début de l'aventure, avec la complicité de Véronique Macari. Alors, à dans quelques instants.
D'accord.
À l'opposé du pèlerin, le randonneur est une espèce récente. La figure de la marche 2001.
Prochain arrêt, hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
Suivre le pas, des marches.
Une girafe.
Le promeneur s'assoit volontiers au gré de ses caprices, s'arrête pour observer ceci ou cela, lève le nez, se détourne de sa route, le cas échéant. Il n'est ni trop attentif à ce qui se passe autour de lui, ni très concentré sur ce qu'il fait. Tout, pour lui, peut être objet de sollicitations, de distractions et son mode d'être.
Arrêtez-vous un moment, puis poursuivez votre chemin vers l'enclos à biche. Regardez-les un moment, puis dirigez-vous vers l'entrée champagneuse. Marchez tranquillement, asseyez-vous dans la cour d'honneur.
Prochain arrêt, hôpital
Saint-Jean-de-Dieu.
Le son.
Ok, attention.
Donc, les sons d'ici.
Le bonjour des soignants.
Les trousseaux de clés.
Couloir.
Les oiseaux.
La cage aux folles.
Les pas.
Le bruit des jets d'eau qui tournent. Tip, 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 tip.
Le chant des oiseaux.
Les portes qui s'ouvrent. Le bruit des biches.
Les sons d'Olivier Coupil dans la chapelle.
Les tracteurs qui passent.
Les camions qui passent.
Ploup, 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 ploup.
Le bruit du silence.
La salle des sports.
L'environnement.
Le ping-pong.
Les tondeuses.
Le tracteur.
Les voix.
La lumière.
Le bruit des verres à la cafette.
Résonance sur Radio B. Voilà, c'est un court extrait, hein, Cécilia de Varine, mais c'est juste pour redonner une couleur finalement et un petit peu ce que vous disiez. Cette, bien sûr, c'est revu dans le montage par la vision propre de Véronique Macari, mais on sent un petit peu les terrains d'expérimentation, en tout cas qu'on présidait, en tout cas à ce début d'expérience et d'atelier sonore, en tout cas, hein.
Ouais, ouais, tout à fait. On retrouve un petit peu l'atmosphère, effectivement.
C'est ça.
Mais elle en a fait de la musique, en quelque sorte.
C'est ça.
C'était vraiment, ce qui était tout à fait, moi, j'ai trouvé assez juste, parce qu'il y avait quelque chose de,
oui,
de musical dans cette aventure. Elle nous a emmené,
ouais,
assez vite. C'était quelque chose qui avait beaucoup impressionné ma collègue de la Maison des Usagers, Monique,
oui,
Simon, à l'époque.
Ouais.
C'était cette capacité qu'elle avait à tirer les gens vers du mouvement. Alors,
c'est
qu'on sait que la psychose peut vite nous tirer vers du non-mouvement ou vers,
ouais,
quelque chose d'assez assez plombant. Donc ça, c'était très, très vivant, très positif, et elle a bien restitué ça. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de montage sonore,
tout
ça peut être un peu déroutant, et on a du mal à retrouver le quotidien de ce qu'on a vécu, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Là, donc, en l'occurrence, c'était le fragment numéro 3, enfin, le début du fragment numéro 3, puisqu'il y avait une série de 4 fragments qui avaient été réalisés dans ce cadre. Alors, peut-être ce que l'on pourrait aussi évoquer, Cécilia de Varine, on l'a entendu au travers aussi de vos propos, et justement en évoquant ce côté déambulatoire aussi de l'action culturelle qui se dessine pour l'hôpital aujourd'hui, on peut rappeler que quand même toute cette action, et même si on a pointé, justement fait un petit focus sur cet atelier sonore, résonne aussi ou s'implique en tout cas dans une action artistique beaucoup plus large et culturelle qui est vraiment un propos qui concerne l'ensemble de l'hôpital, et que différentes interventions, quelquefois d'artistes et autres, se mettent en place, notamment en raccrochant un petit peu toutes ces actions au dispositif culture et santé, qui lui aussi, maintenant depuis 2 ans, s'étend au secteur médico-social. Mais on peut rappeler que c'est quand même dans cette dynamique-là que s'inscrivent aussi ces initiatives.
Ah oui, tout à fait. Alors en fait, l'hôpital est engagé depuis assez longtemps dans le dispositif culture et santé, un dispositif qui permet à des hôpitaux de structurer, de développer de l'action culturelle et de l'action artistique dans leurs murs. Et donc tous les ans, il y a un appel à projet qui est lancé. Oui. En Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir une association qui structure très bien l'action, qui s'appelle Interstice, ce que toutes les régions n'ont pas.
Tout à fait, oui.
Et donc Interstice nous emmène en quelque sorte dans une aventure aussi qu'une aventure collective, qui est comment on peut développer des liens entre le milieu culturel et artistique et le milieu hospitalier, le milieu du soin ou le milieu médico-social, effectivement. Et alors à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est une histoire qui remonte, on va dire, à 2001. Je crois que c'était la première fois qu'un dossier a été déposé en réponse à l'appel à projet culture et santé. Et ça s'est un peu professionnalisé, on pourrait dire, au fur et à mesure du temps. Et puis, en 2012, ils m'ont embauché parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui structure un peu les choses. Il y avait plein de choses qui se passaient, mais elles n'étaient pas rassemblées.
C'est ça.
Et puis, on essaie de continuer dans le même sens, c'est-à-dire de faire quelque chose de, on pourrait dire, d'assez éclectique, avec des projets. Il y a à la fois des artistes qui interviennent dans des unités de soins pour mener un projet sur quelques mois ou quelques années avec des patients, comme monter une pièce de théâtre ou créer une œuvre collective, etc. Il y a à la fois des artistes qu'on invite dans l'hôpital à créer quelque chose. Alors ça peut être des artistes en résidence, on a eu professionnels ou amateurs, alors amateurs de qualité, évidemment, toujours, on essaie de choisir des choses qui sont quand même portées vers une certaine exigence, mais ça peut être tout à fait des amateurs. On a eu une compagnie de danse pendant 1 an qui est venue travailler à l'abri un peu des regards pendant pas mal de temps, et qui nous présentaient régulièrement le fruit de leurs recherches. Là, on va avoir des jeunes compositeurs de musique qui vont venir s'installer. On a aussi quelques expositions de temps en temps qui permettent de découvrir des arts plastiques. Enfin voilà, on essaye d'être à la fois sur les différents arts et de s'inscrire dans les différents temps et les différentes temporalités de la vie hospitalière. Donc à la fois le temps de l'hospitalisation en intra-hospitalier, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe en extra-hospitalier, au plus près des territoires dont s'occupe l'hôpital.
C'est-à-dire que l'hôpital, finalement, quand vous citez un peu l'ensemble aussi de ces partenariats, devient justement un de ces liens de circulation de la culture, non plus que simplement, finalement, bien sûr, son entité première et ce qu'il continue d'être, d'accompagner, de soigner de certaines personnes en difficulté psychique, mais du coup, de par ce fait, ce qui était aussi un des objectifs de ce dispositif culture et santé, de faire que l'hôpital n'était pas coupé du circuit habituel, en tout cas des gens, ou en tout cas de la résonance de la cité et de ce qui pouvait s'y passer, mais pouvoir aussi le placer à l'intérieur même, voire même être porteur d'initiatives, voire même être porteur de choses que les autres ne font pas, mais en tout cas complètement relié à une synergie. Et la culture est une manière un peu de pouvoir faire qu'il existe en tout cas, et soit reconnue dans cette synergie. Et ça vous semble quelque chose, on évoquait 2001, donc la première dépose de demande d'aide dans le cadre de ce dispositif pour l'hôpital Saint-Jean-Dieu. Quand on regarde aujourd'hui 2018, au seuil de 2019 bientôt, vous sentez que là, il y a quand même Vous aviez raison de rappeler aussi la qualité d'Interstice, cette association qui épaule et donne cette énergie-là aussi aux acteurs. Vous sentez une nette évolution par rapport à ça, c'est-à-dire à placer l'hôpital en étant un des maillons de vecteurs de cette culture?
Alors oui, je sens une nette évolution. Enfin, je le sens, mais j'avoue que j'ai une vision un peu parcellaire parce que oui. Je n'ai pas la vision globale de ce qui se passe dans la région. Ça faudrait vraiment demander à Interstice. Moi, de là où je suis, dans l'hôpital où je suis, oui. La grande évolution, je dirais, c'est que en 2001, c'était classique, c'est-à-dire que oui. Le projet qui avait été soutenu, c'était un projet de programmation de quelques concerts dans l'hôpital pendant l'année. Point. Et puis par ailleurs, il se passait des choses avec des artistes dans les unités de soins, mais c'était complètement à part, et les artistes finalement étaient plus reliés à la dynamique de soins qu'à une dynamique d'ouverture vers la culture et l'art.
Oui, c'est ça.
Là, en 18 ans, effectivement, on arrive à quelque chose, à mon avis, qui s'est affiné dans le sens où c'est pas simplement de la consommation culturelle pour passer un bon moment qu'on propose dans l'hôpital. Ça va beaucoup plus loin dans le sens effectivement où on a un peu les échos de la richesse culturelle. Et Lyon est une ville extraordinaire pour ça, enfin même tout le bassin lyonnais, là, toute l'agglomération, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de gens, il y a plein d'artistes, il y a plein d'institutions. Donc on sent qu'il y a des choses qui ont évolué, on sent aussi par exemple que toutes les institutions culturelles aujourd'hui, elles ont un chargé des publics.
Oui, aussi.
Et ça, c'est un outil extraordinaire.
C'est vrai qu'il y a 15-18 ans, on n'avait pas forcément non
Exactement,
plus ces professionnels en poste dans
Absolument.
Ces structures.
Donc là, du coup, on a un interlocuteur, donc c'est facile de rentrer en contact, c'est facile de tisser des liens, etc. Et puis ensuite, même au niveau même de l'institution médicale, enfin hospitalière, il y a 18 ans, c'était, bon d'accord, on fait un concert, et puis évidemment, ça peut aider les gens quand ils s'ennuient le dimanche, bon. Mais sinon, si on fait intervenir un artiste, c'est forcément avec la domination du soin, c'est-à-dire c'est l'aspect soignant qui doit dominer, puisqu'on est un hôpital qui soigne. Effectivement, on restera toujours un hôpital qui soigne et c'est ça le but. Mais aujourd'hui, et je le sens dans les discussions que j'ai avec mes collègues très fortement, on entend maintenant, et on a eu encore une discussion ce midi avec un médecin, que ce qui s'est passé dimanche dernier dans le concert qu'on a accueilli à l'hôpital, c'est aussi un autre aspect des patients qui est mis en avant. Ils se retrouvent spectateurs d'un spectacle et c'est leur partie amateur, c'est leur partie de citoyen amateur qui peut aussi se révéler. C'est aussi du coup leur partie saine, en bonne santé, en intention positive, qui va se révéler même au personnel soignant. C'est toujours le changement de regard des uns sur les autres qui est important.
Bien sûr.
Et aussi parce que ça mêle des publics différents. Et que là, il y a des citoyens qui ne se croisent jamais, qui tout d'un coup se retrouvent côte à côte dans la même aventure artistique.
Et ça, on sent qu'effectivement, c'est un gros changement de point de vue, en tout cas de part et d'autre. Je pense aussi bien du milieu culturel qui pouvait aussi juste se dire, je viens faire juste un concert dans le lieu. Et comme la vision que vous exprimiez tout à l'heure de l'hôpital pouvait être celle-ci aussi, j'accueille un concert. Et et c'était déjà un pas pour eux, de part et d'autre important à leurs yeux. Mais aujourd'hui, on a franchi des caps beaucoup plus importants. Et qui remettent l'individu, le citoyen, effectivement, quel qu'il soit, justement, au cœur aussi du sujet, et donc, du coup, une autre place, un autre engagement, une autre cohérence et un autre sens aussi à ces moments partagés, ces moments de rencontre, de redécouverte aussi de l'autre, et puis qui nous permettent aussi d'aller au-delà aussi des étiquettes. Aller écouter quelque chose dans l'hôpital, c'est aussi un geste important d'aller à la rencontre d'autres individus, mais en même temps d'essayer de dépasser les images préconçues peut-être, ou les représentations que l'on pouvait en avoir.
Parce qu'en plus, c'est d'autant plus important que si on va au bout de cette politique de santé publique qui fait que les gens restent très peu à l'hôpital, il n'y a plus du tout la dimension asilaire, on
tout
sort très vite et on va se réinstaller en ville, il va falloir que tous les citoyens s'habituent aussi à se fréquenter les uns et les autres,
Exactement.
Avec leurs particularités, avec leurs singularités, avec leurs troubles, leurs états bizarres, etc. Et ça, si on peut initier quelque chose, une toute petite touche dans cette idée que, on vit bien ensemble. Et pour ça, l'art, alors c'est une vieille utopie,
bien sûr.
Utopie européenne, mais
tout
l'art
à fait.
Et la la culture peuvent être des excellents leviers, parce que tout d'un coup, on est côte à côte, on regarde dans la même direction, ou on partage la même direction symbolique, et que tout d'un coup, il peut se passer des choses, et on peut en discuter, et on peut partager. Du coup, effectivement, là, on arrive à quelque chose qui est un peu de l'ordre, effectivement, d'une utopie sociale, où on pourrait partager avec des très riches et des très pauvres, des très fous et des très normaux, des très, etc. Et que là, il se passe quelque chose d'une synergie sociale assez exceptionnelle, quoi.
En tout cas, je crois que d'ailleurs, Séverine Legrand, qui dirige l'association Interstice, en tout cas, en est une des animatrices principales, me disait aussi que l'année prochaine, ça fera 20 ans d'existence.
Donc,
quand on entend un petit peu en écho à notre conversation et à notre échange autour de tout ce travail de terrain, on va pouvoir aussi mesurer, peut-être à cette occasion aussi, porter des regards à différentes strates et à différents points de vue. Qui nous permettront de mesurer là aussi peut-être à certains endroits les avancées ou peut-être encore les efforts nécessaires. Et puis ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire ce changement quand même assez considérable de fonctionnement de l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire du coup déambulatoire, des accueils beaucoup plus réduits, comme on trouve aussi dans l'hôpital général finalement. On a aussi déjà cette confrontation lorsqu'on on va à l'hôpital pour une intervention quelconque, on est très vite aujourd'hui replacé en déambulatoire, donc on sent bien qu'il y a un changement de paradigme aussi des choses, mais qui du coup va effectivement faire qu'on va côtoyer beaucoup plus largement toutes ces personnes qui restaient peut-être un peu plus longtemps dans ce type d'établissement. On va les retrouver à nos côtés. Et là, c'est quand même vraiment quelque chose de un changement très important. Et on voit bien aujourd'hui toute la difficulté qu'il peut y avoir avec les migrants, avec d'autres parties étrangères à notre sol, toutes les problématiques que cela pose. Alors certes, là, c'est interne, mais va reposer ce même type de questionnement de l'autre, de celui qui est différent. Et on va se retrouver au cœur vraiment de notre problématique démocratique et sociétale, finalement.
Exactement. Hein? Et comment on va vivre ensemble tout ce grand chambardement. Et donc, effectivement, et puis, il y a aussi des étrangers malades.
Voilà, c'est ça.
Il y a des gens
c'est
qui ça. Cumulent aussi des étiquettes qui peuvent être regardées
exactement.
Un peu de côté, comme ça, un peu bizarrement, etc. Et du coup, comment on travaille et comment on malaxe un petit peu cette vie sociale et comment on apprend tous ensemble à trouver des petits points de jonction, des terrains de connexion, en changeant de paradigme un peu par rapport aux générations précédentes, c'est-à-dire que c'est pas forcément en demandant aux gens de renoncer à leurs outils culturels ou leur savoir culturel ou leurs ressources culturelles. C'est là où la culture elle a une double dimension. Il y a la dimension artistique, il y a la dimension culturelle, une culture qu'on peut partager, mais il y a aussi la dimension culturelle dans le sens anthropologique, c'est-à-dire comment on arrive aussi à travailler avec ce que chacun apporte en lui de différent, de singulier, mais tout en restant dans quelque chose de commun, quand même du commun. C'est bien ça qu'il faut qu'on travaille, quoi.
Voilà, il y a quelques émissions en arrière, j'ouvrais aussi avec un livre La fin de l'hospitalité qui avait été écrite par Fabienne Brugère, qui est une philosophe, Guillaume Leblanc, qui se penchait sur cette question justement avec l'arrivée de tous ces réfugiés justement sur nos sols et qui s'inquiétait justement de ce changement de relation à l'idée d'hospitalité et que elle devenait plutôt quelque chose quelquefois de l'ordre du judiciaire. Aujourd'hui, on peut nous reprocher d'avoir fait d'hospitalité finalement par quelqu'un. Donc on voit bien que toutes ces questions vont être très prégnantes, d'autant plus aujourd'hui parce que ces contextes bougent, que le monde est toujours en mouvement, mais que son fonctionnement de plus en plus se complexifie aussi, mais redistribue les cartes.
Et c'est la question des frontières dans tous les sens du terme qui est posé, quoi. Donc c'est vrai que j'ai entendu il y a pas longtemps, je suis incapable de me rappeler le nom, mais quelqu'un aussi qui parlait justement sur France Culture à ce niveau-là et qui disait c'est vrai que c'est la question de la mondialisation en général, c'est comme les replis vers des mouvements politiques plutôt identitaires ou plutôt qui se replient comme ça, c'est-à-dire il y a une sorte de peur fondamentale d'avoir de perte de repères, quoi. C'est-à-dire, on a tous un peu le tournis et on se tourne et on se dit, mais où est le bord, quoi?
C'est ça.
Est le bord de, et ça, il faut qu'on le travaille collectivement. C'est-à-dire qu'effectivement,
absolument.
Ça peut faire peur, ça peut donner le vertige, mais ce vertige-là, qu'est-ce qui peut produire de beau, de drôle, de symbolique, de fort, d'émouvant.
C'est ça.
Et c'est un peu, voilà, travailler, accepter le vertige, quoi.
Et c'est là où peut-être, pour peut-être boucler notre entretien, puisque nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, où la radio, on voit bien dans ce que nous exprimions tout à l'heure, a un rôle assez central. Et effectivement, cette radio de proximité, cet outil aussi qu'elle représente, pour le vivre ensemble, pour transcender, comme on le disait à l'instant, les frontières géographiques, culturelles et autres, comme elle peut être un enjeu vraiment très fort de partage et d'enrichissement, justement, par ce biais de cet outil tellement fondamental aujourd'hui dans notre mode de communication, mais aussi une manière de peut-être de découvrir l'autre, de donner la parole à l'autre et peut-être d'essayer, en tout cas, de favoriser ce que nous disions, en tout cas d'accepter ces difficultés, de les vivre et essayer de voir comment, justement, peut-être elles peuvent ouvrir d'autres choses.
Exactement.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Cécilia Devarine, d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, à bientôt.
Oui, à très bientôt. Je dis à nos auditeurs que nous aurons l'occasion, justement, puisque nous en avons parlé il y a très peu de temps ensemble. Voilà, on se rendra prochainement, voilà, à l'hôpital Saint-Jean-Dieu pour aller un petit peu plus au cœur de tout ce qui s'y passe, de tout ce qui s'y vit et ce qui se met en œuvre, justement, au point de vue culturel. Donc, effectivement, Cécilia Devarine, c'est un à très bientôt, en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir. Cette émission, se termine, chers auditeurs. Elle a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission à l'antenne et en podcast, sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Écouter une voix sans corps et la recevoir chez soi comme un autre, écrivait Walter Benjamin. Alors merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B.